La bande du jeudi. La bande du jeudi.
Les sentiments sont mitigés au moment de nous retrouver. D'abord, le plaisir d'avoir goûté enfin à une série, celle de 4 matchs consécutifs avec au moins un point à la clé. Et puis ensuite, et peut-être surtout, la déception, la grosse déception même, de la claque reçue à Davos. On va décrypter aujourd'hui ensemble ces deux visages du HC Ajoie et on se projettera vers les prochaines échéances. On s'entretiendra aussi avec notre invité du jour, l'attaquant jurassien Kevin Bozon.
La bande du jeudi.
Bonsoir, bienvenue dans notre podcast dédié au HC Ajoie. On va donc revenir sur les deux dernières semaines de nos vivres. Il y a eu du bon, du très bon même, avec ses points glanés 4 matchs de suite, avec cette victoire de prestige à Zurich ou encore avec la solidité de la performance contre Genève. Mais il y a eu aussi du moins bon avec ce retournement de situation défavorable contre Bienne et la claque reçue à Davos. Pour parler de ces dernières sorties, on sera bien sûr avec Rafi et Yann. Salut messieurs.
Salut Michel, salut Yann.
Salut tout le monde.
Et on sera aussi donc avec l'attaquant du HC Ajoie, Kevin Bozon. Salut Kevin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui par rapport à ce que je viens de dire. Qu'est-ce que tu retiens en particulier? Le fait d'avoir pu enfin, on va dire, comptabiliser sur la durée ou le 8-0 qui fait quand même mal à Davos?
Ah, t'as bien résumé, je pense. On était sur 4 bons matchs malgré la défaite frustrante contre Bienne, mais... le match de mardi contre Davos, il a un peu cassé une dynamique.
Oui, justement, qu'est-ce qu'on se dit après ce match? Ça casse un peu tout le reste? On arrive quand même à en faire fi puis à garder ce qu'on a fait de bien dernièrement?
Non, il faut quand même continuer à faire ce qu'on a fait sur les 4 derniers matchs. Celui contre Davos, on va le laisser de côté, on va l'oublier parce qu'on a de la chance qu'on puisse enchaîner les matchs et puis que ce vendredi, on a un match à 6 points, comme on dirait.
Je crois que tout le monde se pose la question, on va te la poser, je ne sais pas si elle était prévue après ou pas, mais enfin, vu que tu es là et qu'on est prêt, on va te la poser. Comment est-ce qu'on peut sortir finalement d'une bonne passe comme celle-là, mettre 2-0 à Genève, sortir une victoire à Zurich et puis s'effondrer totalement comme mardi à Davos?
Ah, c'est difficile à dire, je pense. Davos, ils ne sont pas premiers pour rien avec beaucoup d'avance déjà sur le deuxième. Il va falloir reprendre les 5 derniers matchs, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, comme je l'ai dit, on a la chance de pouvoir rejouer déjà ce vendredi, donc... Aller tout de suite rechercher des points.
Erreur de parcours, c'est un peu ça? On peut le résumer comme ça?
Oui, erreur de parcours et puis surtout apprendre. C'est la meilleure équipe du championnat en ce moment, donc c'était une bonne leçon qu'on a pris.
Si tu n'as pas regardé le match, puis tu regardes seulement les statistiques du match, c'est quasiment les meilleures statistiques du HC Ajoie sur cette dernière sortie. Vous dominez au nombre de shoots au but, puis finalement le score 8-0, il ne reflète pas vraiment la physionomie du match.
Ouais, ils ont été très efficaces. On a eu des très grosses occasions, mais aussi des occasions assez faciles pour leurs gardiens. Mais c'est sûr que sur le nombre de shoots qu'ils ont eu, ils en mettent 8, donc nous 0. Donc ouais, ça s'est joué là-dessus.
La bande du jeudi. La bande du jeudi.
On va donc enchaîner avec le petit portrait de notre invité, Kevin Bozon. Donc, il est né le 30 décembre 1995 à Chamonix ou à Chamonix?
Moi, je dis Chamonix, mais...
À Chamonix, parce que ceux qui connaissent les grands classiques, ceux qui connaissent pas, c'est la série Les Boys, puis les films Les Boys, un film québécois. On dit-tu Astérix ou Astérix, ou Grand Prix ou Grand Prix? Alors, toi, tu dis Chamonix.
Ouais.
Tu vas faire tes 30 ans bientôt, un cap.
Ouais.
Qu'est-ce que tu te fixes comme objectif pour cet après?
C'est après quoi?
C'est après 30 ans. C'est la maturité, c'est vers la fin de carrière. C'est comment tu vois ce truc, ce 3 venir devant ton...
Ouais, ça fait un peu mal, j'y pense pas encore. Mais non, c'est sûr que 30 ans, c'est l'âge vraiment de la maturité. Et puis non, je vois pas encore la fin de carrière aussi proche.
On te le souhaite, hein, vraiment. Et puis, t'es junior, t'as fait toutes tes classes à Genève, puis après à Lugano, en suivant la carrière de ton papa à l'époque.
Ouais.
Après, ça s'est enchaîné, un peu de Ligue B à Chaux-de-Fonds, Winterthur, le grand saut à HC Ajoie en 2021-2022. Là, tu as fait 3 matchs, je ne me trompe pas, avec le HC Ajoie. Si tu peux nous raconter comment ça s'est passé, cette arrivée au HC Ajoie depuis Winterthur?
Alors disons, déjà pour commencer, ma première année à Chaux-de-Fonds, c'était assez difficile. Ma première année pro là-bas, j'ai eu du temps de glace, mais c'était vraiment difficile. Après, on m'a donné ma chance en Ligue B avec Ajoie. Ça s'est plutôt bien passé, même si on m'a pas renouvelé le contrat. Et puis, à ce moment-là, j'avais pas d'autres offres. Je savais pas trop quoi faire. Et puis, mon frère, il venait de signer avec Kloten. Et puis, du coup, on a regardé de ce côté-là pour être proche de lui. Et puis, l'occasion avec Winterthur s'est proposée. À ce moment-là, je m'attendais pas à rester autant d'années là-bas. Disons que ça a été des années un peu difficiles parce que voilà, on jouait jamais les playoffs et puis avec la langue, la famille aussi qui est loin. Mais voilà, moi j'ai travaillé parce que j'avais un objectif, c'était de partir de là-bas. Je voulais viser plus haut et puis ça a pris 5 ans, mais ça s'est fait. Au bout de la 5e année, j'ai reçu un appel de Gary déjà pour un premier match. Et puis après, c'est Julien qui m'a appelé pour le 2 et 3e match. Donc, il y a eu déjà 3 matchs, même quand j'étais avec Winterthur. Et puis après, il y a eu un contrat à la clé. Donc, j'ai passé beaucoup d'années à Winterthur, mais j'ai beaucoup appris et ça m'a permis d'être le joueur que je suis aujourd'hui.
Oui, l'histoire est un petit peu particulière. Tu es en train de nous dire qu'à l'époque, le HC Ajoie en Ligue B ne t'avait pas gardé, n'avait pas renouvelé ton contrat. Donc, tu n'étais entre guillemets pas assez peut-être bon pour le HC en Swiss League, mais tu l'étais après pour le HC en National League, quelque part. C'est ça, si on résume.
J'avais fait une saison assez correcte, une bonne première partie en Ligue B avec Ajoie, et puis la deuxième partie était un peu moins correcte. Et puis non, on ne m'avait pas proposé de contrat, donc c'est pour ça que j'étais un peu surpris quand ils m'ont appelé pour aller jouer en Liga, mais voilà, j'ai saisi ma chance.
Donc maintenant, tu en es à 4 saisons complètes avec le HC Ajoie. Alors, après Stacy Mechi, t'es jazz le patois, frère? Apparemment pas. Hein. Vu ta tête, pas encore, tu t'es pas encore mis au patois, si jamais.
Non.
Après le coach mental, pour renforcer l'équipe staff du HC Ajoie, on peut vous prêter Cyprien Lovi comme prof de patois pour renforcer l'identité jurassienne. Mais l'identité jurassienne, finalement, elle devient pas mal bleu-blanc-rouge dans les vestiaires, avec l'arrivée en plus de Keller, j'ai déjà quelques-uns. Hein. Ça fait quoi de se retrouver entre compatriotes dans le vestiaire comme ça?
Ça fait du bien parce qu'on les connaît bien. On passe beaucoup de temps avec eux, avec l'équipe de France. Et puis les avoir aussi avec Ajoie, ça fait que du plaisir. On se connaît parfaitement les quatre. Et puis aussi notre
chef matériel,
qui est aussi avec nous. Donc, c'est sûr, il y a beaucoup de Français.
C'est un peu un clan, là. Vous êtes les quatre toujours ensemble ou bien ça dépasse ce côté-là?
Il y a le clan finlandais, il y a le clan français, il y a les Suisses-Allemands. Mais après, l'objectif, c'est qu'on soit quand même tous ensemble dans le vestiaire. Donc, on passe beaucoup de temps ensemble, mais on dénique pas les autres.
Puis la langue du vestiaire, ça reste toujours l'anglais?
Exactement, c'est la langue qui est le plus utilisée. Et puis après, il y a du suisse-allemand, il y a aussi du suisse-italien, il y a du finlandais, il y a tout, quoi.
Toi, tu suisse-allemand, tu maîtrises ou bien...
Non, malheureusement, j'ai pas appris quand j'étais à Winterthur. Même ma copine, elle est suisse-allemande et puis je le parle toujours pas. Donc c'est un peu triste à dire, mais j'ose espérer qu'un jour je le parle.
Ouais, t'as qu'à lire pas chez la belle famille, pas facile, quoi.
Ouais, et puis l'italien aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que t'as grandi aussi quelques années du côté de Lugano, hein.
Ouais, ça, l'italien, je le maîtrise très bien.
Pour continuer avec cette partie un peu bleu-blanc-rouge, bientôt va se profiler les JO. Je crois que t'as été convoqué pour le prochain rassemblement de l'équipe de France avec Thierry et Piqueler, si je ne me trompe pas.
Oui.
Notre ami Pierre-Édouard a été laissé au repos, hein. C'est vraiment un gros objectif pour toi, bien sûr, je pense.
Oui, alors en fait, le stage de décembre, il était plus consacré au mois de 25 ans. Mais comme j'avais raté le stage de novembre pour blessure, il m'a appelé pour me refamiliariser avec le système. Et oui, bien sûr, l'objectif, c'est de participer aux JO cette année. Je pense que c'est le rêve de tout athlète. Et puis, c'est une échéance qui arrive bientôt, donc... C'est dur de dire que c'est pas dans un coin de ma tête parce que je suis aussi à 100% concentré avec Ajoie, mais ouais, forcément, c'est le gros objectif cette année.
Et puis le fait, comme Thomas Thierry, quoi, le fait d'avoir été blessé, là, toi, je crois que tu as été blessé durant plus d'un mois, là, ça, ouais. Ça t'a stressé par rapport à cette échéance de dire peut-être que je pourrais passer à côté?
Ça m'a pas stressé parce que je savais à peu près le temps de guérison, mais ça m'a juste embêté de rater le stage de novembre parce que c'était une liste qui était assez proche de ce qui va être pour les Jeux Olympiques. Donc j'étais un peu déçu de pas être dans ce, à ce stage-là, mais voilà, comme je l'ai dit avant, j'aurai encore ma chance de prouver ma valeur au mois de décembre, et puis non, si tout se passe bien, au mois de février, ça devrait être bon.
Mais si on te comprend bien, il y a une forme de pression quand même au moment d'aborder ce rendez-vous de mi-décembre. Tu vas jouer gros, c'est pas tous les jours les JO.
C'est pas tous les jours, et puis voilà, il y a quand même de la compétition, même si mes dernières années en bleu sont... Voilà, j'ai bien performé, notamment mon dernier mondial, donc... normalement, si tout se passe bien, il y a eu aussi des discussions avec l'entraîneur, ça devrait être bon, mais février, c'est à la fois proche, mais à la fois loin aussi, donc tout peut arriver.
On pourrait voir 4 joueurs du HCA français, donc aux Jeux Olympiques, c'est ça?
Ouais, ça ferait une bonne vitrine pour le club.
T'estimes à combien ton pourcentage d'aller aux Jeux?
Difficile à dire. Après le mondial, je t'aurais dit 100%. Après, voilà, ça va dépendre aussi de ma saison en cours, de la forme, et puis... Je l'espère, pas de blessure.
Le fait de jouer en première ligne actuellement, avec la blessure d'Annette Hidden, tu t'es retrouvé avec Turkulainen et Belmar. Pour toi, c'est un plus pour te mettre en vitrine?
Oui, bien sûr. Après, j'ai eu déjà la chance de jouer avec Belmar déjà au Mondial. Avant de me blesser aussi, j'ai eu quelques matchs avec lui. Et puis, je sais que cette ligne-là, ma place, elle est attribuée à Natinan, normalement, comme tu l'as dit. Donc, j'ai juste essayé de profiter de chaque moment avec eux. Je sais que, voilà, moi, j'ai plus un rôle défensif. Et puis, si on regarde nos 4 matchs ensemble, on a quand même bien joué défensivement. J'aurais aimé apporter un peu plus offensivement parce que je sais que, avec des joueurs comme ça, il faut quand même produire offensivement. Donc, du côté défensif, ça a été bien. Mais offensivement, je sais qu'on aurait pu faire mieux.
Tu t'es senti à l'aise dans ce... Ah, c'est pas un nouveau rôle, évidemment, mais comme tu le dis, on t'a beaucoup vu cravacher souvent en boxplay, troisième ligne, quatrième ligne aussi. Là, promu aux côtés d'un gars comme Turkulainen, d'un gars comme Belmar, qui a aussi beaucoup approuvé, ça t'a... Voilà, t'as dû t'habituer quand même.
Ouais, bah, comme je l'ai dit avant, j'ai pu jouer avec lui déjà mondial, avec lui et mon frère, donc c'est aussi des joueurs assez offensifs, même si Belmar, il est très bon des deux côtés. Mais non, j'avais pas vraiment de pression. Je savais quel rôle je devais amener sur cette ligne. Même s'il y avait cette petite pression quand même de savoir qu'il fallait produire offensivement. Parce que forcément, tu es sur la première ligne. Tu dois pas seulement défendre. Et puis voilà, à part le match contre Bienne, offensivement, ça, j'aurais aimé apporter un peu plus, quoi.
Bah là, tu rejoins un peu. Moi, j'avais mis des points forts puis des points faibles un peu dans ton jeu. Dans les points forts, j'avais mis justement c'est la vitesse de patinage. T'as un gars super rapide, la détermination, puis jeu défensif. Pourquoi t'as été beaucoup utilisé au Achajoie, t'es très bon là-dedans. Et puis ben ouais, dans les points faibles, j'avais mis un peu cet instinct de buteur puis de finition. Toi, comment tu te décrirais comme joueur justement, puis qu'est-ce que t'aimerais améliorer encore pour le reste de ta carrière?
Moi, je pense de tout ce qui est côté défensif, je pense que je le fais parfaitement. Comme tu l'as dit, du côté offensif, c'est pas encore ça. Je pense au match de Bienne que je peux tuer, l'échapper où je pourrais mettre le 4-0. On peut parler qu'après, ils reviennent à 3-3. Donc, c'était peut-être le tournant. Hier aussi, on perd 2-0 et... mardi contre Davos, on perd 2-0 et puis le premier chiffre du deuxième, j'ai une grosse occasion, ça peut faire 2-1. Donc il y a eu beaucoup de tournants et je sais que mon point faible c'est la finition parce que je fais presque 95% du travail et puis le 5% qui me reste, ça me réussit pas en ce moment. Donc je sais où je dois travailler, c'est ce que je travaille beaucoup à l'entraînement en ce moment et puis voilà, j'espère que ça va arriver de mon côté bientôt.
Ça se travaille vraiment, ça? Ou c'est une question d'instinct, quand même, avant toute chose? Ce côté buteur, là, se sentir être au bon endroit au bon moment, de la glisser quelques centimètres au-dessus ou au-dessous,
juste ce qu'il faut? J'ai eu beaucoup d'échappées sur mes dernières années que j'ai pas réussi à marquer. Donc ça, c'est pas... Oui, c'est quelque chose que tu peux travailler à l'entraînement, mais c'est surtout au niveau des shoots que ça se travaille, à mettre un peu plus de conviction. C'est ça qui m'a manqué dans les derniers matchs et cette saison surtout.
T'en as marre, on te rappelle sans cesse le fait que ça fait un petit moment que t'as plus marqué un but. C'est quelque chose qui pèse chez toi?
Ça me pèse dans le sens que c'est pas comme si les occasions elles étaient pas là. Je m'en procurais énormément. D'ailleurs, même le match contre Davos mardi, j'en ai eu encore quelques-unes. Et puis, c'est ça qui est frustrant, c'est que je les ai les occasions et ça rentre pas. Donc, oui, forcément, c'est un peu frustrant, mais voilà, moi, je continue à travailler et puis j'ose espérer que ça va rentrer un jour.
Là, tu parles de cet aspect mental pour aller chercher la finition dans ces situations de 1 contre 0 ou ben, dans d'autres situations. Plus généralement, le HC Ajoie ben, a enchaîné les défaites. Toi, t'es revenu de blessure. Comment mentalement tu gères cette saison ici où c'est qu'il y a beaucoup de concurrence dans les attaquants, il y a ces défaites. Comment t'abordes vraiment tes entraînements, tes matchs d'un point de vue mental?
Je pense que c'est la saison, sur les 4 saisons où je suis là, je pense que c'est la saison là, un peu la plus stressante. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'attaquants, donc il y a beaucoup de compétitions, donc tu dois performer chaque match. T'as pas vraiment le droit à l'erreur, parce que tu sais que si tu fais une erreur, t'as un ou deux gars qui sont en tribune qui seront là à prendre ta place. Donc tu dois être un peu irréprochable sur la glace, et puis c'est sûr que ça te donne un stress supplémentaire. Après, voilà, c'est ma 4e année, je commence à avoir un petit peu d'expérience aussi là-dessus. Je sais ce que je dois faire, je connais mon rôle. Donc là, on a eu quelques séances avec un coach mental qui nous ont fait du bien, il nous a apporté énormément. Donc voilà, ça...
Ça se passe comment, ces séances-là? Parce que on a entendu parler que la Chargeois avait engagé Dave Scott, ça se passe comment maintenant? Il est toujours en visioconférence, ou ça se passe comment?
Exactement, on peut l'avoir une fois par semaine, ou des fois c'est toutes les 2 semaines. C'est des séances de 45 minutes. Je ne vais pas rentrer dans le but, parce que c'est un peu intime ce qui se passe là-dedans. Mais voilà, le but, c'est qu'il nous redonne de la confiance. Et que, pour prendre exemple, au début de saison, on n'arrivait pas à marquer. Il nous a fait comprendre les raisons pourquoi on n'arrivait pas à marquer un but. Et puis, au final, ça a quand même marqué, parce que les matchs d'après, on a commencé à marquer des buts.
Donc c'est plus des séances collectives, ou bien c'est des entretiens individuels?
Alors, c'est des séances collectives, et puis on a la possibilité, si on veut, de le contacter pour une séance individuelle.
Parler de ton rôle, là, j'ai trouvé une statistique sur ta fiche Elite Prospect. T'as joué centre dans ta carrière?
J'ai joué quelques matchs centre en junior, mais jamais en professionnel.
En 2014, t'avais 68% d'engagement gagné lors d'un mondial.
Ouais,
c'est impressionnant, ça. C'était...
C'était en Grande-Bretagne, je me souviens très bien. Mais c'était une des rares fois où j'ai joué centre. En junior, ça m'arrivait de jouer quelques fois, mais en professionnel, ça m'est jamais arrivé.
Et ben c'est pour la postérité, hein, vu que c'est sur l'affiche et les prospects du plus la vie, celle-là. Puis si je me permets, moi je pose toujours la question au niveau contrat. T'es en fin de contrat, c'est ça? Comment?
Je suis en fin de contrat, oui. Ouais. C'est pour ça que cette année, je l'estime comme être la plus importante de ma carrière. Il y a CGO, bien sûr, il y a la fin du contrat, et puis malheureusement, l'année dernière, on est descendu avec l'équipe de France, et puis il y a cet objectif de remonter. Donc ça fait une grosse année pour moi, donc je l'estime comme être la plus importante.
Et l'envie, elle reste à Parentruy?
Oui, bien sûr, je m'y plais énormément. Ma copine, elle s'entraîne à Macolin, donc forcément, la proximité fait qu'on s'y sent bien ici.
Le débrief.
C'est à mon tour de donner les mentions d'étoiles pour ces dernières semaines. J'ai eu un petit peu plus de chance que vous ces derniers temps. Il y a eu un petit peu plus de points, et puis on a vu de bonnes choses, donc je ne vais pas perdre trop de temps, je vais directement vous décerner les 3 étoiles, et finalement quoi, j'ai pas trop le choix, elles vont à Antoine Keller, malgré le résultat de mardi soir qu'on connaît. Il a été un petit peu, il a même beaucoup abandonné à Davos, Antoine Keller, mais je lui donne 3 étoiles pour ses 3 premiers matchs avec le HCA. Un blanchissage face à Genève Servette et 7 points au compteur de l'équipe. Et je crois que c'était 95,42% d'arrêt jusque-là. Quoi. Il est arrivé, il a un petit peu poussé les autres gardiens. Ça, c'est une image pour prendre la place dans le but. Puis il a fait le boulot. Moi, j'aime son assurance sur la glace. J'aime son attitude et ce qu'il dégage aussi. Et quand tu regardes, c'est un gardien qui donne peu de rebonds, finalement, excepté en prolongation face à Bienne. Mais voilà, quoi, on le dit depuis longtemps, Ajoie, pour avancer, il ne doit pas compter sur des gardiens à 90%, mais bien plus en-dessus, 92, 93, 94. Antoine Keller, sur ces 3 matchs, il a amené l'équipe dans cette dimension. Lui, il nous a dit tout de suite qu'il voulait faire une saison à la Charlin. Ben, on verra maintenant comment il va assumer ses prochains temps. Mais voilà, c'est pour ça que pour ce début d'aventure au HC Ajoie, il a mis 3 étoiles.
Oui, il est, ouais, ça me va, ouais, clairement. Il est sûr de lui, hein, je trouve, tant dans les paroles que dans les actes. Et puis, au-delà des qualités que tu as mentionnées, il y en a aussi une que je trouve vraiment assez incroyable, c'est sa vitesse de déplacement. Il est vite d'un côté, vite de l'autre. Effectivement, il relâche peu, sauf sur les missiles de Rayala, mais ça, c'est pas le premier et pas le dernier. Mais voilà, effectivement, il a apporté vraiment aussi une continuité. J'en parlais, on s'est un petit peu agrippé il y a deux semaines par rapport à la continuité et au fait que les gars n'avait à mon sens pas gagné assez de matchs. Et là, je trouve que les derniers matchs, je ne veux pas dire qu'il les a gagnés seul, mais il a été très grande partie prenante de ces matchs, de ces victoires. Et puis moi, ce qui me déplaisait un petit peu, c'était ce tournus un peu systématique, presque forcé des gardiens. Là, on a 4 matchs de suite où on a le même. Alors peut-être que ça va changer maintenant, mais j'ai pas envie de dire, j'espère pas, parce que j'estime que les autres font aussi un gros travail. Mais ça fait du bien aussi d'avoir une sérénité défensive, une assise qui ne change pas, un gardien qui est là, et puis voilà, d'avoir cette stabilité, et puis des performances en continu dans les Bois Jurassiens. On a vu que ça pouvait mener à de gros points, et clairement, si Ajo a réussi ces 4 matchs avec des points à la clé, je pense que c'est lui le premier artisan de cette réussite, quoi.
On l'a dit, le move de pouvoir signer Keller, c'était une chose à faire pour le HCA Joie. Je crois que même malgré le fait qu'on ait déjà pas mal de gardiens sous contrat, c'était pas une obligation, mais c'était vraiment un gros coup sur le marché des transferts, s'assurer de ce jeune gardien prometteur au HCA Joie. Oui, il a répondu présent au premier match. Je l'ai trouvé bien aidé par la défense jurassienne aussi, hein. Les Ajoulots ont vraiment pas donné de shoot dangereux, pas d'occasion dangereux durant ces matchs. J'attendais de voir un peu plus de lui des fois, parce que dans ces matchs-là, il a fait beaucoup d'arrêts, mais beaucoup de pucks qui lui arrivent. On a l'impression que le puck était aimanté vers son plastron, mais alors énormément de pucks, donc ça veut dire qu'il est toujours aussi bien placé. Mais le travail défensif de l'équipe durant ces matchs-là a été vraiment très bon. Et puis, je vais pas dire qu'il a eu des arrêts faciles à faire, mais voilà, il les a fait. J'attendais de voir. Voilà, hier soir, il a eu des attaquants un peu plus percutants en face de lui. Mardi soir, il a eu des attaquants un peu plus percutants en face de lui. Ça a moins réussi, mais voilà, ça va pas enlever tout le bon début les trois premiers matchs qu'il a fait au HCA Joie. Faut lui laisser. Et puis effectivement, 95% d'arrêt, c'est pas tous les jours.
Kevin, tu le connais bien, c'est un gars qui peut faire face à la sale soirée de mardi, malgré, entre guillemets, c'est seulement 21 ans.
Ouais, pour son âge, il est déjà très mature. Je pense que vous avez bien tous résumé ce que vous avez dit sur lui, c'est très bien. Moi, j'ai été juste un peu désolé pour lui mardi, parce que c'est lui qui nous fait gagner en majeure partie les derniers points, donc un peu désolé pour lui, mais comme je l'ai dit, il a beaucoup de maturité et ça ne va pas l'affecter.
C'est des situations finalement qu'il est. Je ne vais pas dire qu'avec l'équipe de France, il connaît un peu ces situations où on perd des matchs aussi. Donc il a quand même aussi un peu de background avec ça.
Ouais, non, c'est sûr. Mais puis même déjà ces années avec Lausanne, même si c'était une équipe qui était en réussite, voilà, il a eu déjà beaucoup de matchs. Donc il a déjà cette expérience. Et puis, juste pour vous rejoindre, je pense, oui, c'est un gros coup pour cette année et puis pour le futur, parce que je pense aussi à Noah qui sort du lot cette année. Donc, c'est vraiment un bon coup de le prendre cette année et pour le futur.
Bon, on y va avec les deux étoiles. Et hop, deux étoiles pour Jari Turkulainen. Voilà, je sais, il reste sur deux matchs sans le moindre point, mais il y a les épisodes précédents. Je sais pas si on va évoquer sa prolongation de contrat, mais voilà, le fait qu'il reste encore une année au moins en Ajoie, on dit beaucoup sur la personne et ce qu'il pense du projet jurassien. On va dire que c'est un très très bon signal. Et sur la glace, il a fêté sa signature surprise par 5 mentions sur les 5 buts de HCA contre Genève et face à Bienne. Moi, j'aime toujours sa vista, son coup d'œil et sa capacité à trouver la bonne ligne de passe pour déborder l'adversaire. Est-ce que le HCA est Turkulainen dépendant? Peut-être plus que jamais, selon moi.
Ouais, nouveau gros coup de Julien Vauclair, j'ai envie de dire, après la prolongation de Donka la saison passée. C'est voilà, une pépite qu'on est content de pouvoir garder à Port-en-Truy. Et puis je crois qu'avant le match de mardi contre Davos, il avait 14 matchs au compteur, un point par match, tout pile. Et hormis Suomela et Fourère qui ont joué genre un match et puis 7 matchs pour Suomela, il y avait, sauf erreur, 4 ou 5 autres joueurs que Turkulainen qui étaient à un point de moyenne par match, dont des Stransky, dont des tout gros de la Ligue. Donc c'est la preuve de la sphère dans laquelle patine actuellement Turkoglu, même sur un retour de blessure. Donc je te rejoins sur le HCA dépendant de Turkoglu. Il a un talent fou et on voit quand il est un peu moins dedans, quand il est bien pris aussi par l'adversaire, ben tout de suite ça devient un peu plus compliqué aussi pour un joueur pour trouver la faille. Mais quand il arrive à être sur orbite ou que lui-même seul, et comme il le fait souvent, arrive à se mettre sur orbite, eh bien tout de suite l'horizon s'éclaircit, quoi.
Les qualités du bonhomme sont plus à démontrer. Meilleur buteur jusqu'à sa blessure l'année passée. Là, il revient. Il a fallu quelques matchs, bien sûr, après une immense blessure comme il a eu, pour se remettre dedans. Mais voilà, maintenant, il carbure maintenant à fond. On a vu son coup d'œil sur les passes, sur le but d'Onka contre Bien, ou la finition sur ta passe, Kevin, contre Bien aussi. Voilà, c'est vraiment un joueur qui a énormément de talent. T'as l'occasion de jouer avec maintenant depuis quelques matchs. Comment on s'adapte de jouer qu'un joueur qui a cette vista et puis cette technique?
Ouais, comme je le disais en présentation, ça t'apprends beaucoup avec un joueur comme ça, parce que normalement moi dans mon rôle de quatrième ligne, on est plus là à défendre et à amener de l'énergie, et puis là tu te retrouves à jouer avec quelqu'un qui amène énormément offensivement. Donc oui, t'apprends énormément avec lui. Moi j'aimerais juste rajouter que sur les 5 matchs que j'ai pu jouer avec lui, on parle de son côté offensif, mais on prend seulement un seul goal contre des équipes qui vont jouer top 6, top 4 cette année. Donc j'ai été agréablement surpris, parce qu'on parle que de son côté offensif, mais il a vraiment bien joué aussi défensivement, donc je tiens à souligner ça aussi.
On y va pour mon étoile. C'était un petit peu mon moment hésitation, parce que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y avait quelques candidats pour le poste. J'ai pensé à Gaël Christ qui s'affirme en défense. J'ai pensé à toi, Kevin, qui se démène bien dans le premier bloc. À Johnny aussi, hein, qui a marqué 2 buts importants contre Genève et face à Zurich. Mais je vais y aller pour Kane Sopa. Je dirais presque que c'est un autre joueur depuis quelques temps, quoi. Il prend vraiment son destin en main, il patine fort dans une quatrième ligne qui fait le job, et puis la manière dont il arrive à récupérer le puck derrière le but sur le dégagement manqué du défenseur zurichois là, vendredi passé pour servir Johnny, sur le 3-2, ça vaut la mention. Sopa, c'est le genre de joueur qui doit s'affirmer, comme on disait il y a peu de temps, il va dans ce sens, et on aimerait que ce soit le moment, quoi, et puis qu'il continue vraiment à aller dans cette direction.
Ouais, c'est un joueur qu'on peut trouver des fois un peu à jouer facile ou à pas faire les gros efforts. On avait un peu cette image de lui de talent un peu gâché, parce que on le voit, il a un patinage, il a une technique, il a encore aussi un défaut de finition, un peu comme Kevin. Il a beaucoup d'occasions aussi, lui. Il doit marquer un petit peu plus. Mais c'est vrai que depuis le début de saison, je crois que il a terminé la saison passée avec Grey Harland, avec quelques histoires qu'on a entendues à gauche et à droite. Et puis là, il est revenu, je pense, qu'en début de saison avec une non-totalité. Et puis il l'a montré dans les premiers matchs, quand la Jajoie était vraiment au fond du gouffre. C'était un des seuls joueurs qui arrivait à transporter le puck, à monter, à entrer dans la zone avec de la vitesse. Et puis on n'a pas beaucoup de ce style de joueur dans notre équipe au Jajoie. Et puis il fait vraiment du bien.
Oui, il est pétri de talent, hein, je trouve aussi. Et puis le fait qu'il soit petit sur patin, ça rend des fois la tâche compliquée à défendre, un peu comme Turkoglu. Il arrive un peu à faire le dos rond au-dessus de la rondelle comme ça pour la protéger. Et puis ses entrées en zone, effectivement, font du bien aussi. Il apporte beaucoup dans les points assist et buts marqués. Il fait aussi le travail par rapport à ce qu'on attend de lui, même peut-être davantage que ce qu'on aurait pu en espérer en début de saison. Donc il est vraiment dans un bon trend, et je suis aussi satisfait que tu le soulignes, Rafi, dans tes étoiles, parce que je suis aussi convaincu que son apport est très important dans les dernières réussites du HCA.
Après, la question, quelle est sa place? Où le placer?
Oui, c'est ça. Ouais.
Quatrième ligne, troisième ligne, et voilà.
Moi, j'aimerais bien qu'on laisse une fois plus haut, quoi, dans la hiérarchie, aux côtés d'artificiers, pour voir aussi un peu comment il se comporte, quoi.
Après, on a besoin aussi de lignes équilibrées. On a eu souvent une ligne, deux lignes qui faisaient le boulot à Chargeois. Maintenant, on a besoin, on voit l'intensité des matchs, la répétition des matchs fait qu'on a vraiment besoin de 4 lignes. Et puis, qu'ils soient en 3e, 4e ligne actuellement, il fait le boulot. Avec Cormier à Zurich, ils ont fait un super boulot. Si tu le mets avec Vic, il fait un peu un autre travail. Mais ouais, moi, il nous faut un peu aussi une ligne de 100% Suisse qui aille chercher des occasions, puis qui amène du momentum. Et puis dans ce rôle-là, moi, je le trouve pas mal.
Ouais, on connaît très bien le talent de Kane Sopa. Leur ligne contre Zurich était la meilleure ligne. Je pense que c'est un joueur qui est malheureusement un petit peu des hauts et des bas. Mais comme on l'a dit, on connaît son talent. Je pense que c'est le joueur suisse qui joue le mieux avec le puck de notre club. Donc, après, c'est difficile à dire cette année, première, deuxième, troisième, quatrième ligne. Je trouve que depuis que je suis revenu au jeu, je crois que les temps de jeu ils sont pas mal équilibrés. Donc, c'est difficile à dire qu'une ligne avec Sopa et Cormier, c'est une quatrième ligne. Mais voilà, c'est sûr que c'est un joueur normalement qui devrait jouer dans le top 9. Mais qui arrive quand même à performer dans une quatrième ligne, entre guillemets.
Et tu parlais de l'aspect défensif de Turkoglu en avant. Je trouve que défensivement, il a beaucoup progressé aussi, Kane Sopa. Je le trouvais personnellement les dernières saisons un peu léger, perte de puck, un repli un peu timide dans le duel contre quelqu'un de plus athlétique aussi, à se dire, entre guillemets, un peu, ouais, tant pis, il est plus costaud que moi. Là, on voit, il va au charbon, il va où ça fait mal, il bloque des shoots aussi. Il a davantage d'impact défensif et d'envie il dégage davantage d'envie dans le repli défensif que ce qu'il dégageait auparavant aussi, je trouve.
Bon. Cercle vertueux aussi, hein. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on lui a peut-être pas fait beaucoup confiance dans les clubs où il était. Il a alterné un peu les tribunes, changé de club. Puis c'est peut-être la première saison où on lui fait autant confiance. Et puis, quand tu prends confiance, tu joues aussi mieux avec le puck. Tu te permets de faire des fois un petit peu plus. Et puis, ça lui réussit. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu le talent de Kane Sopa.
Bon, on va piquer un petit peu, voilà quoi. Je vais piquer cette semaine un défenseur, et voilà, aussi pour mettre en relief la débâcle défensive de ce mardi à Davos, avec ses 8 buts encaissés. Mon épine, je la donne à Arnaud Nussbaumer, voilà, qui, on va bien l'admettre, était un petit peu à la rue dans la station Grisot de mardi soir, en retard sur Tom Bellini sur le 1-0, mal allé sur le 2-0, peine, double peine, puis après triple peine, parce que Gregory Holland le sort à un moment de l'alignement, il revient dans le deuxième tiers, et paf, là, il est surpris, il est pris de vitesse sur le quatrième, voilà quoi, c'est de manière générale un peu de passivité, presque de la naïveté là, et puis là, ça fait cette défensive qui est un petit peu à côté de la plaque mardi soir, et puis ça change vraiment de l'attitude affichée mardi passé à Zurich, voilà, c'était pas une bonne séquence pour Arnaud Nussbaumer, voilà, qui devra faire maintenant, en plus face à une vraie concurrence, peut-être avec le retour aussi prochainement de Thomas Thierry, là, les placeront cher aussi derrière.
Oui, je partage aussi, j'aurais aussi mis mon épine personnellement à un défenseur. J'aurais hésité entre Nussbaumer et Freeman que, voilà, on voit que quand la structure, elle est pas en place comme elle devrait et que l'adversaire est capable de prendre de la vitesse, que ça devient très difficile pour ne pas dire impossible pour lui de défendre. On a vu, contre des patineurs comme Reforce ou comme Zadina, toutes les lacunes qu'il peut avoir aussi dans le repli et dans la vitesse de patinage tout court Freeman. Donc j'aurais hésité entre les deux, mais Nussbaumer clairement fautif sur plusieurs buts et puis manque de sérénité, il n'a pas dégagé beaucoup d'assurance, j'ai trouvé aussi à Davos, donc je trouve que l'épine est pleinement justifiée.
Globalement, sur ce début de saison, c'est vrai que je suis un peu déçu d'Arnaud Nussbaumer. Il avait montré des belles capacités. Un joueur qui arrivait à donner des bonnes premières passes, très mobile. On a vu des autres joueurs arriver dans le même style. Hein. On a eu notre invité, Jonas Berthou, qui a vraiment fait un step. On a Gaël Christ aussi, qui prend confiance. Et puis Arnaud, on le sent un peu en plein doute. C'est vrai que ça fait plusieurs matchs hein, qu'on le voit un peu douter dans ses relances, perdre des pucks derrière. Et puis contre Davos, ça a été un peu criant. Ma foi, je crois que Rafi t'en parlait. Est-ce qu'il a déjà la tête à Langnau l'année prochaine? On en prenait ça un peu comme une boutade. Mais c'est vrai que là, je pense que mentalement, c'est compliqué pour lui. Puis comme tu l'as dit, avec le retour peut-être de Thomas Thierry et puis la concurrence qu'il y a derrière, ça va être compliqué pour lui de tenir sa place dans l'alignement.
La bande du jeudi. La bande du jeudi.
On va brièvement discuter de la suite des opérations. Hein, à mi-chemin, à mi-parcours, ou presque, hein, le HCA toujours dernier d'un classement dans lequel parfois il revient à proximité, on va dire ça comme ça, des adversaires. Parfois, il s'en éloigne un peu. Qu'est-ce qu'on peut espérer de la suite, on va peut-être commencer par toi, Kevin, invité. Est-ce que cette dernière place, elle vous est promise ou est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher mieux?
Il y a moyen d'aller chercher mieux. Faut être ambitieux. Je sais qu'on a pas mal de points de retard, mais si on regarde le match de vendredi, qui est un match très important pour nous, je pense qu'on revient à 9 points si on gagne. Donc, Moi, je veux juste que l'équipe, on n'abandonne pas. Je sais qu'on est capable, comme on l'a montré sur les derniers matchs, de prendre des points partout. Donc, je veux pas qu'on soit fixé sur cette dernière place ou cette avant-dernière place, parce que je sais qu'on est, on est capable de mieux. Depuis qu'on est revenu au complet, qu'on a moins de blessés, on commence à tourner de mieux en mieux. Donc, je nous souhaite de rester en santé et d'aller chercher le plus de points possible, parce que je sais qu'on est capable de sortir de cette dernière place.
De la situation actuelle, c'est con à dire, mais la meilleure chose que le HCA Joie a fait, c'est d'oublier le classement. Mmh. Et puis de prendre des séquences de matchs. On a l'impression sur ces 4-5 derniers matchs qu'on avait un petit peu oublié le classement. Et que le HCA a avancé, ben voilà, il a présenté des bonnes choses. Et puis il doit se baser là-dessus maintenant. Il doit aller chercher la confiance chez les joueurs qui en ont. Et puis c'est vrai que c'est bête à dire, mais prendre une soirée après l'autre. Et puis effectivement, il faut absolument gagner ces matchs qui valent double. Typiquement le match de vendredi à Kloten. Mais oublier le classement et puis continuer d'avancer, parce que voilà, on parlera assez de faits bien précis en fin de saison avec les échéances qui peuvent arriver.
Ouais, mieux pour la Chargeoise si comme tu l'as dit Rafi, on gagne ces fameux matchs qui comptent double. C'est vrai que souvent on a la Chargeoise qui va mieux, il joue un adversaire direct pour le classement, on se dit là on a l'occasion de revenir tout près, et puis ben le Chargeoise c'est souvent raté sur ces matchs là et puis le Chargeoise peut revenir. Pour moi, je suis convaincu, parce qu'on le voit, le positif, c'est cette série de 4 matchs avec des points contre des grosses équipes. Donc, le Chargeois est capable d'aller chercher des points contre tout le monde, mais il faudra surtout aller chercher ces points contre des équipes de classe, ouais, qui sont vraiment en bataille directe dans le classement.
Ouais, je crois que tout a été dit. C'est hyper dur de dire, de toute façon, on va rester dernier ou on va recoller au peloton, parce que moi j'y crois aussi. On a vu de très bonnes choses dernièrement, on voit de très bonnes dispositions, on voit des joueurs de qualité, une grosse concurrence, de la profondeur. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous permettent d'être positifs et optimistes. Maintenant, la réalité, elle est quand même là. Les places vont devenir chères, les confrontations vont aussi faire que certes, des équipes vont entre guillemets se bouffer des points, mais elles vont aussi en prendre. Et puis, ben, ça va tenir qu'à un fil. Hein. C'est clair que ces matchs couperets vont compter encore plus, encore davantage, et vont valoir encore plus cher que d'habitude. Et c'est clair que si on commence à perdre Berne, Kloten, la mission sera impossible. Par contre, si dès vendredi on arrive à gagner à Kloten, ben déjà l'horizon se rééclaircit, et je pense que les ingrédients sont là pour y croire, mais ça va se jouer vraiment à pas grand chose pour continuer à malheureusement se battre pour quelques points et pas pour des places, ou alors justement continuer à y croire et puis pourquoi pas grimper un peu au classement.
Dans l'œil de la vouivre.
Voilà, ben on va finir en beauté évidemment avec le quiz comme d'habitude. Ça va concerner les prochains matchs du HCA Joie. Il y en a 4 avant notre prochain rendez-vous: Kloten, Zoug, Fribourg et Genève. Alors la première question, c'est la suivante: parmi les top scoreurs de la Ligue, 2 comptent actuellement moins de points qu'Anthony Onka, donc le top scoreur du HCA Joie, qui est d'ailleurs, pour la petite histoire, le seul défenseur actuellement à porter le maillot distinctif. Qui sont ces 2 joueurs qui sont donc top scoreurs de leur équipe et qui ont moins de points qu'Anthony Onka?
Ben, il doit y avoir un Bernois, j'imagine.
Qui est le top scorer de Berne?
Vela, non?
Ouais. Lui, ça n'a rien à voir absolument avec les 4 prochains adversaires du HCA, ça c'est vrai, mais l'autre...
Donc il y a Sud-Kloten, voilà. Le Finlandais, là...
Morlaix?
Non.
Ouais, mais Vela est blessé actuellement, donc c'est pas lui le top scorer.
Si, c'est toujours lui le top scorer. Okay. Ouais.
C'est pas lui qui a le maillot de top.
Alors, ouais, voilà, oui, mais... Dans la hiérarchie, c'est lui qui l'est, effectivement. Il y a Kloten.
Le Finlandais de Kloten.
C'est juste, ouais. Mais c'est pas Pouaka, c'est l'autre. Onka a 18 points, Laino en a 17 et Merella, qui est effectivement blessé, lui en a 13, et aucun autre Bernois n'a d'avantage actuellement. Deuxième question: combien y a-t-il de joueurs de Zoug qui ont joué cette saison au moins un match en première équipe et qui sont passés par la formation zougoise? Le chiffre est assez impressionnant, franchement. On va faire au plus proche. 9 pour Rafi.
Si c'est impressionnant, on va dire... allez, 13.
13 pour Yann.
Je vais dire 15.
Tout juste, 15 pour Kevin Blozon, absolument. Ah oui. Ouais, ça bataille entre les Zougois et les Zurich, quoi. Hein. Wolf, Genoni, Künzle, par exemple, sont des enfants de la maison zurichoise, mais il y a 15, effectivement, dont beaucoup de jeunes, hein. 15 joueurs Zougois qui ont joué avec la première équipe cette saison et qui sont passés par la formation. Hein.
J'ai cru que tu allais poser la question des joueurs du HCA Joie qui sont passés par la formation à Zoug, parce que là aussi,
il y en a quelques-uns aussi, là.
Ouais.
C'est vrai, ouais. Troisième question: quelle équipe... Attention, c'est un peu subtil. Quelle équipe a le plus haut taux de remplissage de sa patinoire depuis le début de la saison? On parle de taux, pas de nombre de spectateurs. Hein, le plus fort taux en pourcentage de remplissage de la patinoire. Et qui a le plus faible, accessoirement?
Fribourg est à 100%.
Juste, Fribourg est à 100%.
Je le savais, celui-là. Mais j'aurais dû te le prendre, merde, que je savais que c'était Fribourg.
Fribourg, c'est celle de la
semaine. Mais le moins bon, c'est Lugano, moi, je dis.
Non.
Ah, zut.
Non, ça c'est aussi un des prochains du HCA. Et on n'est pas loin de la question d'avant.
Kloten.
C'est Kloten, ouais. Donc Fribourg est à 100%, 9319 spectateurs en moyenne par match, donc toujours rempli. Et puis Kloten a un petit taux de remplissage, hein, 64,7%. Ça fait quand même 4819 spectateurs. Et Ajoie a l'avant-dernier taux de remplissage, 78,2%. Et aussi le plus faible nombre de spectateurs en moyenne, 4123. Question d'actualité. On revient sur les matchs de mardi, pas celui du HCA, mais celui de Genève. Combien de buts la quatrième ligne de Genève a-t-elle marqué mardi lors de la victoire dans le derby contre Fribourg? Il y a eu 5 buts au total pour Genève. Combien de buts pour la quatrième ligne?
4 de Rode de Verboon.
Qui dit mieux?
Le dernier, c'est en cage vide des étrangers, non? Je dirais 4 aussi.
Tu partages, Yann?
Ah ouais,
tu peux dire oui, Yann.
Je dis oui, oui, oui.
C'est la bonne réponse. Ouais, effectivement, 4 buts pour la quatrième ligne de Genève mardi soir. Dernière question. Il y a des équipes qui conviennent bien et d'autres beaucoup moins, hein, au HCA dans ce championnat. Ben, celle qui convient le moins bien, c'est Davos. Pas de surprise avec ça. Hein. Trop défaites. Hein. 8-0, 6-0, 4-2. Ce qui fait 6 buts encaissés, hein, en moyenne par match, hein, contre les Grisons. Quelles sont les deux autres équipes qui occupent le podium en matière de buts marqués, contre le HCA Joie?
Zoug ou Fribourg?
Tu as les deux juste, absolument. Ah. Zoug en a marqué 11 au HCA en 2 matchs et Fribourg en a marqué 10 au HCA en 2 matchs. C'est le podium. Et Zoug et Fribourg donc sont deux des prochains adversaires d'Ajoie.
Ça met en confiance.
Ça met en confiance, c'est ça. C'est un challenge, il faut le voir comme ça. Et on va terminer comme d'habitude par la question qu'on pose aux auditeurs. La semaine passée, c'est Frédéric Bernasconi qui a remporté le petit cadeau qu'on offre, estampillé, bande du jeudi. La réponse était donc 16 tirs au but. C'est le nombre de tirs au but qu'il a fallu pour départager Ajoulot et Biennois lors du premier derby de la saison. Cette semaine, la question concerne en partie notre invité. On y a déjà répondu si vous avez écouté l'émission depuis le début. Combien d'Ajoulot ont été conviés au rassemblement de l'équipe de France, rassemblement de préparation? Ce sera à Budapest, mi-décembre. Combien d'Ajoulot ils ont donc été conviés? Il y a un petit piège dans cette question. Vous pouvez répondre donc par mail bdj@lqj.ch ou alors sur rfj.ch, il y a une page qui est dédiée à la bande du jeudi. Vous donnez donc le nombre d'Ajoulot qui sont conviés avec l'équipe de France lors du tournoi mi-décembre à Budapest. Voilà, dans 2 semaines, c'est à ce moment-là qu'il y aura d'ailleurs cette trêve internationale. C'est là qu'on se retrouvera pour le bilan des 4 prochains matchs du HCA Joie. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir été avec
merci
nous.
Merci à vous.
Et puis merci, messieurs, aussi. On se dit à très bientôt.
À dans 2 semaines.
À dans 2 semaines avec une série de victoires, j'espère.
La bande du jeudi.